Chapitre 2e. En 1886, une jeune femme vivait retirée seule dans une petite maison d'un village de New England. Sa seule compagnie était un enfant d'environ 5 ans. Elle n'avait pas de domestique, fuyait les relations et semblait sans amis. Le boucher, le boulanger et les autres fournisseurs disaient avec raison aux villageois qu'ils ne savaient rien d'elle. On ne connaissait en effet que son nom, Stillman, et celui de son fils, qu'elle appelait Archie. Chacun ignorait d'où elle venait, mais à son arrivée on avait déclaré que son accent était celui d'une sudiste. L'enfant n'avait ni compagnon d'études, ni camarade de jeu. Sa mère était son seul professeur. Ses leçons étaient claires, bien comprises. Ce résultat la satisfaisait pleinement. Elle en était même très fière. Un jour, Archie lui demanda « Maman, suis-je différent des autres enfants ?»« Mais non, mon petit, pourquoi ?» Une petite fille qui passait par ici m'a demandé si le facteur était venu, et je lui ai répondu que oui. Elle m'a demandé alors depuis combien de temps je l'avais vu passer. Je lui ai dit que je ne l'avais pas vu du tout. Elle en a été étonnée, et m'a demandé comment je pouvais le savoir puisque je n'avais pas vu le facteur. Je lui ai répondu que j'avais flairé ses pas sur la route. Elle m'a traité de fou et s'est moquée de moi. Pourquoi donc ? La jeune femme pâlit et pensa. Voilà bien la preuve certaine de ce que je supposais. Mon fils a la puissance olfactive d'un limier. » Elle saisit brusquement l'enfant et le serra passionnément dans ses bras, disant à haute voix « Dieu me montre le chemin. » Ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Sa poitrine était haletante, sa respiration entrecoupée. « Le mystère est éclairci maintenant, » pensa-t-elle. « Combien de fois me suis-je demandé avec stupéfaction comment mon fils pouvait faire des choses impossibles dans l'obscurité ? Je comprends tout maintenant. » Elle l'installa dans sa petite chaise et lui dit « Attends-moi un instant, mon chéri, et nous causerons ensemble. » Elle monta dans sa chambre et prit sur sa table de toilette différents objets qu'elle cacha. Elle mit une lime à ongles par terre sous son lit, des ciseaux sous son bureau, un petit coup de papier d'ivoire sous son armoire à glace. Puis elle retourna vers l'enfant et lui dit « Tiens, j'ai laissé en haut différents objets que j'aurais dû descendre. Monte donc les chercher et tu me les apporteras. » ajouta-t-elle après les lui avoir énumérés. Archie se hâta et revint quelques instants après, portant les objets demandés. « As-tu éprouvé une difficulté quelconque, mon enfant, à trouver ces objets ?»« Aucune, maman. Je me suis simplement dirigé dans la chambre en suivant votre trace. » Pendant son absence, elle avait pris sur une étagère plusieurs livres qu'elle avait ouverts. Puis elle effleura de la main plusieurs pages dont elle se rappela les numéros, les referma et les remit en place. « Je viens de faire une chose en ton absence, Archie, » lui dit-elle. « Crois-tu que tu pourrais la deviner ?» L'enfant alla droit à l'étagère, prit les livres et les ouvrit aux pages touchées par sa mère. La jeune femme assit son fils sur ses genoux et lui dit « Maintenant je puis répondre à ta question de tout à l'heure, mon chéri. Je viens de découvrir en effet que, sous certains rapports, tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux voir dans l'obscurité, flairer ce que d'autres ne sentent pas. Tu as toutes les qualités d'un limier. » C'est un don précieux, inestimable que tu possèdes. Mais garde-en le secret. Sois muet comme une tombe à ce sujet. S'il était découvert, on te signalerait comme un enfant bizarre, un petit phénomène, et les autres se moqueraient de toi ou te donneraient des sobriquets. Dans ce monde, vois-tu, il faut être comme le commun des mortels, si l'on ne veut provoquer ni moquerie, ni envie, ni jalousie. La particularité que tu as reçue en partage est rare et enviable. J'en suis heureuse et fière. Mais pour l'amour de ta mère, tu ne dévoileras jamais ce secret à personne, n'est-ce pas ? L'enfant promit, mais sans comprendre. Pendant tout le cours de la journée, le cerveau de la jeune femme fut en ébullition. Elle formait les projets les plus fantastiques, forgeait des plans, des intrigues, tous plus dangereux les uns que les autres et très effrayants par leurs conséquences. Cette perspective de vengeance donnait à son visage une expression de joie féroce et de je ne sais quoi de diabolique. La fièvre de l'inquiétude la gagnait, elle ne pouvait ni rester en place, ni lire, ni travailler. Le mouvement seul était un dérivatif pour elle. Elle fondait sur le don particulier de son fils les plus vives espérances et se répétait sans cesse en faisant allusion au passé. Mon mari a fait mourir mon père de chagrin, et voilà des années que nuit et jour je cherche en vain le moyen de me venger, de le faire souffrir à son tour. Je l'ai trouvé maintenant. Je l'ai trouvé, ce moyen. » Lorsque vint la nuit, son agitation ne fit que croître. Elle continua ses expériences. Une bougie à la main, elle se mit à parcourir sa maison de la cave au grenier, cachant des aiguilles, des épingles, des bobines de fil, des ciseaux sous les oreillers, sous les tapis, dans les fentes des murs, dans le coffre à charbon. Puis, elle envoya le petit Archie les chercher dans l'obscurité. Il trouva tout et semblait ravi des encouragements que lui prodiguait sa mère en le couvrant de caresses. À partir de ce moment, la vie lui apparut sous un angle nouveau. L'avenir lui semblait assuré. Elle n'avait plus qu'à attendre le jour de la vengeance et jouir de cette perspective. Tout ce qui avait perdu de l'intérêt à ses yeux se prit à renaître. Elle s'adonna de nouveau à la musique, aux langues, au dessin, à la peinture et au plaisir de sa jeunesse si longtemps délaissée. De nouveau, elle se sentait heureuse et retrouvait un semblant de charme à l'existence. À mesure que son fils grandissait, elle surveillait ses progrès avec une joie indescriptible et un bonheur parfait. Le cœur de cet enfant était plus ouvert à la douceur qu'à la dureté. C'était même à ses yeux son seul défaut. Mais elle sentait bien que son amour et son adoration pour elle auraient raison de cette prédisposition. Pourvu qu'il sache haïr, c'était le principal. Restait à savoir s'il sera aussi tenace et aussi ancré dans son ressentiment que dans son affection. Ceci était moins sûr. Les années passaient. Archie était devenu un jeune homme élégant, bien campé, très fort à tous les exercices du corps. Poli, bien élevé, de manières agréables, il portait un peu plus de 16 ans. Un soir, sa mère lui déclara qu'elle voulait aborder avec lui un sujet important, ajoutant qu'il était assez grand et raisonnable pour mener à bien un projet difficile qu'elle avait conçu et mûri pendant de longues années. Puis elle lui raconta sa lamentable histoire dans tous ses détails. Le jeune homme semblait terrorisé, mais au bout d'un moment, il dit à sa mère « Je comprends maintenant. Nous sommes des sudistes. Le caractère de son odieux crime ne comporte qu'une seule expiation possible. Je le chercherai, je le tuerai. » Le tuer, non. La mort est un repos, une délivrance. C'est un bienfait du ciel. Il ne le mérite pas. Il ne faut pas toucher un cheveu de sa tête. » Le jeune homme réfléchit un instant, puis reprit « Vous êtes tout pour moi, mère. Votre volonté doit être la mienne. Vos désirs sont impératifs pour moi. Dites-moi ce que je dois faire, je le ferai. » Les yeux de Madame Stillman étincelaient de joie. « Tu partiras à sa recherche. Depuis 11 ans, je connais le lieu de sa retraite. Il m'a fallu 5 ans et plus pour le découvrir, sans compter l'argent que j'ai dû dépenser. Il est dans une situation aisée et exploite une mine au Colorado. Il habite Denver et s'appelle Jacob Fuller. Voilà. C'est la première fois que j'en parle depuis cette nuit inoubliable. Songe donc, ce nom aurait pu être le tien. Si je ne t'avais épargné cette honte en t'en donnant un plus respectable, tu l'arracheras à sa retraite, tu le traqueras, tu le poursuivras, et cela toujours sans relâche, ni trêve. Tu empoisonneras son existence en lui causant des terreurs folles, des cauchemars angoissants, si bien qu'il préférera la mort et aura le courage de se suicider. Tu feras de lui un nouveau juif errant. Il faut qu'il ne connaisse plus un instant de repos et que même en songe, son esprit soit persécuté par le remords. Sois donc son ombre, suis-le pas à pas, martyrise-le en te souvenant qu'il a été le bourreau de ta mère et de mon père. Mère, j'obéirai. J'ai confiance, mon fils. Tout est prêt, j'ai tout prévu pour ta mission. Voici une lettre de crédit. Dépense largement, l'argent ne doit pas être compté. Tu auras besoin de déguisements sans doute et de beaucoup d'autres choses auxquelles j'ai pensé. » Elle tira du tiroir de sa table plusieurs carrés de papier portant les mots suivants écrits à la machine. « $10 000 de prime. On croit qu'un certain individu qui séjourne ici est vivement recherché dans un état de l'Est. » En 1880, pendant une nuit, il aurait attaché sa jeune femme à un arbre près de la grande route et l'aurait cravaché avec une lanière de cuir. On assure qu'il a fait déchirer ses vêtements par ses chiens et l'a laissée toute nue au bord de la route. Il s'est ensuite enfui du pays. Un cousin de la malheureuse jeune femme a recherché le criminel pendant 17 ans. Adresse, poste restante. La prime de $10 000 sera payée comptant à la personne qui, dans un entretien particulier, indiquera au cousin de la victime la retraite du coupable. Quand tu l'auras découvert et que tu seras sûr de bien tenir sa piste, tu iras au milieu de la nuit placarder une de ses affiches sur le bâtiment qu'il occupe. Tu en poseras une autre sur un établissement important de la localité. Cette histoire deviendra la fable du pays. Tout d'abord, il faudra par un moyen quelconque que tu le forces à vendre une partie de ce qui lui appartient. Nous y arriverons peu à peu, nous l'appauvrirons graduellement, car si nous le ruinions d'un seul coup, il pourrait, dans un accès de désespoir, chercher à se tuer. » Elle prit dans le tiroir quelques spécimens d'affiches différentes, toutes écrites à la machine, et en lut une, 1800 et quelques. À Jacob Fuller, vous avez, 3 points, jour pour régler vos affaires. Vous ne serez ni tourmenté ni dérangé pendant ce temps qui expirera à, 3 points, heure du matin le, 3 points, 1800 et quelques. À ce moment précis, il vous faudra déménager. Si vous êtes encore ici à l'heure que je vous fixe comme dernière limite, j'afficherai votre histoire sur tous les murs de cette localité. Je ferai connaître votre crime dans tous ses détails, en précisant les dates et tous les noms, à commencer par le vôtre. Ne craignez plus aucune vengeance physique. Dans aucun cas, vous n'aurez à redouter une agression. Vous avez été infâme pour un vieillard, vous lui avez torturé le cœur. Ce qu'il a souffert, vous le souffrirez à votre tour. Tu n'ajouteras aucune signature. Il faut qu'il reçoive ce message à son réveil de bonne heure avant qu'il connaisse la prime promise. Sans cela, il pourrait perdre la tête et fuir sans emporter un sou. Je n'oublierai rien. Tu n'auras sans doute besoin d'employer ces affiches qu'au début. Peut-être même une seule suffira. Ensuite, lorsqu'il sera sur le point de quitter un endroit, arrange-toi pour qu'il reçoive un extrait du message commençant par ces mots. Il faut déménager, vous avez, 3 points, jour. Il obéira, c'est certain.